À Bloc Radio, c'est notre radio, votre web radio. Tout jeune, 2 ans tout juste, mais déjà toute belle de sons, de mots, de notes, de souvenirs et de rencontres. On n'arrête pas son flux. Elle n'a pas de règles, hormis celle du plaisir de s'exprimer et de partager. Aujourd'hui, c'est le printemps. Pour nous, c'est surtout le printemps de la radio. Et pour le fêter, on est sur scène, en direct et en public pour la première fois. C'est une idée de Leïla Djitli, venue de France Culture pour nous raconter dans notre lycée au cœur du Gers. Élèves et personnels l'ont accueillie avec bonheur et intensité. Mais quelle idée! Les stylos et les claviers ont chauffé, les mots ont fleuri, notre envie de radio s'est épanouie, nos voix palpitent et nos cœurs aussi. Grâce à Leïla, à Auch-Beaulieu-Lavacan, la parole entre donc en résidence. Nous allons vous raconter des histoires. Elles nous ressemblent, elles sont sincères, si personnelles et à la fois universelles. Nous vous les offrons car elles racontent une seule histoire de lycée, l'histoire de nous tous réunis. C'est à Bloc Radio Live. Notre parole va élire résidence dans vos oreilles. Laissez-la entrer.
Titon Maza, moi et les filles. Alors j'ai toujours eu un très très bon rapport avec les filles. Toujours un bon rapport que je vais vous raconter mon premier râteau. Donc j'étais en 6e au mois de juin. Ouais, je me rappelle bien parce que j'étais en short, en t-shirt et j'étais en fin d'année. Et il y avait cette fille dans ma classe qui me plaisait beaucoup parce qu'elle était belle, intelligente, drôle, mais trop bien pour moi. C'est pour vous dire, elle était Cendrillon et moi j'étais Zazou. Mais le problème, c'est que je n'osais pas lui parler. Elle sortait avec les beaux gosses du collège. Et l'autre problème, c'est que je l'ai dit à un pote. Ce qu'il ne faut jamais faire. Car dans 90% des cas, les potes vont ruiner les chances. Toujours. Donc, dans la seconde qui suit, ce pote va lui dire. Et dans la seconde qui suit juste après, les filles débarquent. Enfin, pas elles, ses amies. Pour me divulguer les informations à la manière des gendarmes de Saint-Tropez. C'est pour vous dire, elles essayaient d'être discrètes, seulement tout le monde les voyait. Et là, tragédie, elles débarquent. Elles demandent ce qui se passe. Alors moi, j'avais deux choix. Soit je partais en courant, soit je restais. J'ai fait face et j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Et là, le calvaire commence. Les amis de cette fille me soufflent les mots que je devais dire à voix haute. Donc ça a commencé, tu voudrais sortir avec, et j'ai lâché un petit moi. Pour vous dire ma crédibilité, elle était au Brésil en train de siroter un cocktail, et là elle m'a lâché un non. Mais c'est pas un non basique, c'est un non de personne qui a pas le temps. Donc après j'étais sur le bord de la salle en train de réfléchir au sens de la vie. Elle vient à côté de moi, elle met sa main sur mon épaule et je vous jure, elle me dit, tu peux pleurer si tu veux. Alors là, on était loin du mythe comme quoi, après avoir pris un râteau, on pleure. Moi, je suis parti en fou rire live complet pendant 20 minutes. Et du coup, c'est grâce à ce râteau et à d'autres derrière, malheureusement, que je suis devenu le Titou que vous connaissez.
Je m'appelle Élise et je vais vous raconter la guerre des quartiers. En 2016, j'étais chez moi à Bordeaux et j'habite dans une des cités les plus chaudes qui s'appelle Les Aubiers. Ma copine se sentait mal parce que son frère venait de se faire embarquer parce qu'il avait sur lui plus de 20 grammes de stupéfiants. Du coup, moi, un bon ami, je voulais aller la voir. Et ma meilleure amie aussi, elle voulait y aller. Donc, elle ne voulait pas venir aux Aubiers parce qu'elle avait trop peur, parce qu'elle habite à Dravement et c'est aussi l'une des cités chaudes. Et il y avait une rivalité entre nos deux cités. Du coup, moi, je lui ai dit, bon, je viens te chercher. Et après, je suis descendue et il commençait à se faire tard. Et ma mère, elle n'aimait pas que je sorte dehors. Et en bas, il y avait des teneurs de mur. Et on les appelle comme ça parce qu'ils sont H24 en bas du bloc. Et ils sont toujours sur les murs ou les portes d'entrée. Du coup, ils nous répétaient tout le temps « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire dehors à cette heure-ci? Tu vas faire ta pute et tout. » Du coup, nous, ça nous saoulait un peu parce qu'on avait l'impression de ne pas se sentir en liberté et de tout le temps être surveillés. Donc, une fois arrivé à Dravement, il y avait des teneurs du mur en bas du bloc de chez Mounia, ma meilleure amie. Et ils étaient là, ils m'avaient vu et tout, et ils me connaissaient parce que mon cousin leur a parlé et tout ça. Et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à faire « Ouais, qu'est-ce que tu fais là ?» et tout, « C'est pas ta cité, retourne dans ta cité » et tout ça. Et plein d'autres insultes. Après, il y a un ancien camarade à moi qui m'a vu, du coup il est venu me chercher et il m'a emmené dans le bâtiment de ma copine. Et une fois que je suis montée, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle, ça l'a fait rire parce qu'elle s'est dit « c'est débile ». Mais après, on a vite arrêté de rigoler parce qu'on s'est dit que quand on allait arriver en bas, on allait se faire lapider. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'arrivé en bas, il y avait deux mecs qui nous attendaient. Ils ont commencé à nous jeter des œufs dessus. Du coup, on s'est mis à courir et on rigolait en même temps, mais c'était bête. Du coup, après, le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, je l'ai raconté à mon frère. Et il a commencé à me dire « Ouais, tu me donnes des prénoms et tout ça, ça va pas se passer comme ça. » Et du coup, je lui ai donné les prénoms parce que, voilà, pour moi, c'était bête. Et j'ai appris quelques mois plus tard qu'il y avait des grands de mon quartier qui étaient partis en prison, enfin, en garde à vue, parce qu'ils avaient, pour détention d'armes blanches et de produits illicites. Et je m'étais sentie mal parce que je me suis dit que si je n'aurais pas raconté ça à mon frère, il ne se serait jamais passé ça et que peut-être il n'y aurait jamais eu cette « guerre » entre guillemets.
Merci. Ismaël, première sapate. Ma belle-mère, la gardienne. Alors, dans ma famille, il faut savoir qu'on s'aime beaucoup. Enfin, en vrai, pas tous. Il faut que je vous parle de ma belle-mère. Parce que ma belle-mère, elle est voyante. Enfin, surtout quand elle a bu. Elle voit des fantômes. Ça fait flipper, des fois. Elle parle avec les fantômes dans les cimetières. D'ailleurs, avant, elle était toxico, accro à l'alcool, au sexe, à l'argent. Elle a même été interdite de tous les casinos de France. Elle a un lourd passé. Et mon père, ça fait un an ou deux donc qu'ils sont séparés. Et juste après, quelques mois plus tard, il a trouvé cette fameuse belle-mère. Et donc au début, tout allait bien. Au début, on s'entendait bien. Jusqu'au moment où elle a commencé à boire de l'alcool en cachette. Et puis elle est devenue complètement tarée. Donc j'étais avec ma sœur et on les voit en train de se taper dessus. Une grosse engueulade. Il y avait des verres, des assiettes qui volaient. Et je vois mon père qui commence à aller se planquer dans le camping-car, dans le jardin. Et là, je vois ma belle-mère qui passe par la cuisine et qui commence à prendre un couteau de cuisine. Donc, je la suis et tout. Je me dis à ma sœur d'aller dans sa sécurité, donc dans sa chambre. Je me suis mis en sécurité à moi aussi. Donc, j'ai appelé la gendarmerie. Il y a les pompiers qui sont arrivés et tout. Entre-temps, il avait pris des coups de couteau. Donc, voilà. Donc, il aurait pu mourir, en fait. Donc, déjà, super ambiance dans la famille. Et la semaine d'après, donc, ma belle-mère qui a fait quand même 48 heures de garde à vue, donc elle revient chez mon père, et donc lui, il lui dit qu'il va la ramener chez elle, donc il commence à faire les valises, ils mettent tout dans la voiture, et là, ma belle-mère, elle commence à s'énerver. Donc elle fumait sa garo, et elle lui écrase dans l'œil. Rien que ça. Donc dans la voiture, toujours en pleine crise de nerfs, elle donne un grand coup de volant. Et boum, dans le platane, encore un accident de voiture. Heureusement que de la chance, rien de grave. Elle avait encore bu. Donc du coup, j'ai fait une procédure auprès du juge et des services sociaux pour qu'elle ne puisse plus me voir, ni moi ni ma sœur. Donc elle venait quand j'étais pas là. Donc elle a fait plusieurs structures pour se soigner. Ma sœur l'a très mal vécu. Hein. Moi, je continuais à aller voir chez mon père, même si je n'avais pas le droit, pour le protéger, parce qu'à chaque fois que j'étais là-bas, je lui sauvais la vie. Parce que là-bas, c'est moi qui rassurais tout le monde. Et même les psychologues, elles me disent que c'est pas ma place, je suis qu'un enfant et c'est pas mon rôle d'adulte de faire le rôle d'adulte là-bas. Donc voilà. Donc après, je me suis mis à stresser à mort parce que le coup de couteau, je suis resté calme et tout. J'ai protégé ma sœur, j'ai appelé les gendarmes, mais après, il s'est passé plein d'autres choses que je vais pas raconter là. Et tous les trucs qui m'arrivent dans ma famille, j'essaie d'en faire une force parce que ça me renforce dans la vie et
Ça m'a donné beaucoup d'envie d'en faire mon métier, comme j'ai fait une formation chez les pompiers, et maintenant je veux en faire mon métier. Donc la belle-mère voyante, pour venir sur elle, elle s'est fait soigner pendant plus d'un an en hôpital psychiatrique. Elle a des traitements, elle suit les alcooliques anonymes, et ça fait un an qu'elle a arrêté de boire. Donc maintenant on peut partager des moments ensemble quand même, elle voit ses enfants, elle s'est excusée, elle regrette. Mais le truc, c'est qu'elle est toujours voyante, elle voit toujours des fantômes. Donc en même temps, ça peut rassurer parce qu'elle protège des fantômes et c'est devenu la gardienne de la maison.
Premier ressenti, première ébauche. De quoi vais-je bien pouvoir parler ? De mes années lycée ? Pouf, même s'il y a prescription, pas vraiment d'anecdote dont je puisse tirer une quelconque fierté. En toute honnêteté, j'essayais d'y aller le moins possible, au lycée. C'était plutôt les années sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, plutôt reggae, plutôt rebelle, vraiment torturé, mais pas réellement vif. Mais que suis-je allé faire dans cette galère ? Un projet radio où il faut raconter une histoire personnelle, transmettre une émotion. Alors ça, non. Je suis en rupture de stock. S'il n'y avait eu cette rencontre avec Leïla, cette journaliste, qui je ne sais pour quelle raison me semblait extrêmement sympathique, participer à un projet scolaire à mon âge. Moi qui me suis toujours senti exclu, totalement inadapté au système scolaire, que je pense encore aujourd'hui beaucoup trop rigide, et qui, je crois, laisse beaucoup trop d'enfants sur le bord de la route. Mais je divague complètement. Quelle histoire puis-je raconter à la fin ? On dirait un adolescent qui se rebelle face à un système qu'il trouve destructeur et tellement perfectible. Restons légers, diantre ! Oui, légers. Tel le blanc d'œuf foisonné qui flotte délicatement sur son lit de crème anglaise. Cette poétique métaphore de cette tendre île mystérieusement flottante, voilà, parlons cuisine. La cuisine qui me permet de transmettre des émotions, tantôt épicées, tantôt amères et parfois sucrées. Délicatement sucrées, presque mielleuses. Pour rester dans la thématique du lycée, ayons une pensée délicate pour mon collègue Hervé, enseignant et apiculteur passionné. Et puis, pour paraphraser Natacha, la cuisine, ça conserve. Enfin, moi, elle m'aura vraiment sauvé de tout et de moi-même. Cette fois encore, elle me permettra de conserver intacte mon armure. Et je divague à nouveau, mais quel exercice compliqué. Restons concentrés. Après avoir été rapidement en échec scolaire, me voilà apprenti en cuisine, dans un excellent restaurant. Un boulot parfaitement adapté au jeune adolescent fainéant que j'étais. J'ai donc appris la cuisine, dans la douleur. Après 8 ans en cuisine classique, le naturel est revenu au galop. Quoi de mieux dans l'inconscient collectif que la fonction publique pour s'épanouir dans sa fainéantise ? Je me souviens de mon premier jour au lycée, du personnel d'accueil qui m'interpella en me disant « Jeune homme, vous vous êtes trompé de lycée ». J'avais 25 ans et je venais d'être nommé comme cuisinier dans un lycée toulousain. Le premier jour, le chef m'a demandé de faire des pâtes. Je suis donc allé chercher une casserole. Et tout à coup, toute l'équipe éclate de rire. Le chef me demande si je pense pouvoir cuire 80 kilos de pâtes avec une simple casserole. Il m'indiqua 2 énormes cuves, plus grandes que ma baignoire. Mais qu'étais-je venu faire dans cette usine ? Quelques jours plus tard, on me demandait de réchauffer des barquettes, en me laissant entendre que celles-ci contenaient des lasagnes. J'ai dit au chef, si vous voulez que je serve des lasagnes, je vais les faire moi-même. Pour 800 personnes, m'a-t-il dit ? Par fierté, j'ai répondu, sans problème. J'étais venu dans un lycée pour trouver un boulot peinard, et dès les premiers jours, je me lançais un premier d'une très longue série de défis pour améliorer la qualité des repas dans les cantines où je travaillerais. Oh, désolé, Leïla, j'ai pas trouvé d'histoire à te conter. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans ma cuisine, j'essaye de servir des plats et des desserts, du fait maison, à base de produits de qualité. Je me demandais récemment pourquoi je restais au lycée. Je me suis finalement trouvé une utilité. Faire en sorte que chaque élève, sans aucune forme de distinction, puisse bénéficier d'un repas de qualité, chaque jour. Je suis arrivé au lycée par hasard, j'y suis resté par défi. Je n'ai pas le talent de François Morel, ni la verve de Pastureau. Je ne sais pas faire de chronique, ni même d'écrire d'histoire pour la radio. Désolé.
Céline et Cynthia.
Mrs. Catastrophe.
Cette histoire est inspirée de faits réels.
Une véritable autobiographie.
Le lycée est un cadre de vie qui nous permet de nous enrichir, de nous éduquer.
Et où il ne nous arrive que des catastrophes. Tous les matins, c'est la même chose. Je me débats avec ma brosse, je me prends les pieds dans mon jean en l'enfilant et je me demande depuis quand mon pull a trois manches. Sans compter que l'on vient de se lever et c'est déjà la cinquième fois que Cynthia se lave les mains. Résultat, une flaque d'eau devant le lavabo et des chaussettes trempées.
Bon, j'avoue, je suis peut-être un peu maniaque.
Un peu ? Et il n'y a pas que ça. Impossible de la faire sortir de sous sa couette les vendredis 13. Et le pire, c'est quand elle évite de passer sous une échelle, elle se prend systématiquement un poteau.
Bref, tout ça pour dire que notre vie peut parfois sembler un peu agitée.
Il n'y a pas que ta vie d'agitée.
Je suis peut-être parfois aussi un peu stressée.
Tu parles, t'auras un AVC à 40 ans.
Tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui me fait stresser. Ça et les petits détails.
Normal, t'as des tocs.
Et de toi, on en parle ? Ton bol de céréales qui fait un vol plané au petit-déj ?
Oui, mais ça, un petit coup balai et après c'est nettoyé.
Et ton frère qui a une grippe du mollet ? Oui, oui, ça existe. Apparemment. Ah, et ta tendinite ? Tu sais, celle qui a duré 6 mois ? Et que tu t'es faite au mollet en allant acheter des bonbons. Je te jure, tu dois avoir un espèce de lien cosmique avec ton frère.
Et toi, avec ta cheville, t'as réussi à t'arracher les ligaments en tombant 2 fois dans la même journée, dans les mêmes marches de l'internat.
Oui, bah ça arrive. Et puis de toute façon, c'était un vendredi 13.
Il a bon dos le vendredi 13.
Je t'assure, je m'en souviens, parce qu'il y avait un chat noir en train de me fixer devant la porte de l'infirmerie. Tu peux pas comprendre. Les vendredis 13, ils sont sournois. Ils commencent toujours bien. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Ce n'est qu'après qu'ils révèlent leur vrai visage. Tu verras. Un jour, tu comprendras, petit scarabée.
Non, t'es juste parano. Ou vraiment pas doué.
Ou peut-être que j'ai juste un karma pourri.
Bref, passons. L'infirmière a bien dû se marrer. Tu lui as dit quoi ?
Bah, la vérité. Ça arrive. Un pas, deux pas, trois pas, patatras. Bon, j'ai quand même précisé que c'était la faute du sac. Il m'a déséquilibrée.
Et la deuxième fois, c'était la faute de qui ? De Casper, peut-être ?
Pareil, la faute du sac. Finalement, il possède peut-être 2 bretelles pour une bonne raison. Je t'ai remonté et redescendu chercher mes écouteurs. Je les avais oubliés. Et puis tu sais, ma chute était en fait une bonne action. Elle a sauvé des vies.
Tiens donc.
Oui, oui. 3 jours plus tard, ils ont mis les bandes antidérapantes sur les marches de l'internat. Et puis je suis pas la pire. Océane, elle a réussi à se casser un doigt en soulevant un petit arrosoir, vraiment petit, à 2 mains.
Oui, enfin, tu restes pas mal dans ton genre, hein.
Je parle des béquilles. Là, c'est pas ma faute. Je pensais qu'elles étaient censées m'aider à tenir debout, mais elles me faisaient des croche-pattes.
Non, je pensais plutôt au mec de l'Amérique. T'avais tenu la porte et tu t'étais totalement étalée devant lui. Mais les béquilles, ça marche aussi. Heureusement que le ridicule ne tue pas. N'est-ce pas, Cynthia ?
C'est sûr. Sinon, il y a belle lurette que ton cher et tendre grand frère, il aurait passé l'arme à gauche.
Attends. Il faut raconter l'histoire en détail, sinon ils vont rien comprendre. Une soirée bien arrosée, un frère légèrement éméché. Un mec lui demande des clopes et comme mon frère a l'alcool gentil, trop gentil, il lui répond.
Mais tu sais, c'est pas bien de fumer.
Fin de soirée, mon frère recroise ce même gars qui lui redemande des clopes et qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais tu sais, c'est pas bien de fumer. Et par contre, ce gars avait l'alcool agressif, voire violent, parce qu'il lui a cassé la mâchoire.
Ouch, pas cool. Comme quoi, la cigarette, c'est vraiment dangereux et pas toujours pour ceux qu'on croit.
Yep.
Après avoir raconté quelques-uns de nos déboires, vous comprendrez que nous soyons de ferventes croyantes en un proverbe bien connu.
Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Ou pas.
Ethan, l'accident, des séquelles éternelles. Le 27 novembre 2015, à 17h45. Ce moment m'aura changé, que ce soit sur les points physiques ou psychologiques. Encore aujourd'hui, certains jugements sont encore fondés sur mes séquelles visibles, me rappelant les dissimulés. Tout cela me plonge dans un rappel continu de ce moment fatidique. Au moment des faits, je revenais d'une journée banale du collège Salinis. Sur le trajet du retour, je croise ma mère accompagnée de ma sœur. Arrivé devant le passage piéton du boulevard Sadi Carnot, je m'y engage alors que les voitures s'y étaient arrêtées devant. À la moitié du passage, une moto remonte la lignée de voitures et me percute. Le choc me fit voler dans les airs jusqu'à ce que je retombe sur le sol et que mon sac remplisse le rôle d'amortir ma chute. Ma tête se trouve à 5 cm du trottoir. Mon corps ne me répond plus. Les pleurs de ma mère et des passants m'entourent. Après quelques minutes, un passant qui se trouve être médecin prend en charge ma situation. Il me met en position latérale de sécurité et me maintient réveillé jusqu'à ce que les secours soient là. Mes yeux se ferment petit à petit à cause de la fatigue. Une sirène se distingue des pleurs envahissants. La police et les pompiers étaient enfin arrivés. On me porte avec sûreté pour ensuite me placer dans le camion en direction de l'hôpital. Le brancard sur lequel j'étais allongé était glacial, entouré d'ustensiles pour réaliser les premiers secours. Parmi ceux-là, celui qui me fait le plus peur n'était pas les nombreux scalpels qui m'entourent. Non, c'était le défibrillateur se trouvant à ma droite, celui-même qui me rappela que quelques instants plus tôt ma vie s'est jouée à 5 cm. Une fois arrivé à l'hôpital d'Auch, on me fait passer de nombreuses radios, des IRM ainsi que des analyses d'urine. Subjugué par mes résultats, les médecins viennent nous les annoncer avec un teint pâle, croyant qu'ils allaient nous annoncer une nouvelle tragique. Ma mère sentit ses larmes remonter jusqu'à ses yeux, alors que la seule nouvelle que l'on nous annonça est telle que je n'avais rien, ni fracture, ni os cassé, rien à part un hématome frontal qui ne se résorbera jamais, à moins de subir une opération. Après ce soulagement, je me fais conduire dans ma chambre, la chambre 302, la chambre Poussin. On m'annonça, après m'avoir allongé sur un matelas aussi dur que de la pierre, que je pourrais enfin fermer les yeux pour me reposer, mais que l'on allait me réveiller toutes les 3 heures pour vérifier mes perfusions et mon état. Au bout de 3 jours, on me libéra de l'hôpital. Une fois arrivé en bas de celui-ci, je croisa celui qui m'avait mis dans un tel état. Il vient me voir pour se faire pardonner et m'expliquer qu'il ne m'avait pas vu et qu'il croyait que les voitures s'étaient stoppées à cause du feu rouge. Quand je vois qu'il s'en était tiré avec rien d'autre que de simples bleus, la haine me gagne. Je me mets à serrer mon poing pour ensuite le frapper. Je voulais le mettre dans le même état que celui dans lequel il m'avait laissé. Mais après que son nez se casse face à la violence de mes coups, ma famille nous sépare, l'aide à se relever. On finit enfin par entrer chez nous pour que je puisse bien dormir. Pour suivre le bon déroulement de ma cicatrisation, toutes les semaines pendant 2 mois, une infirmière me rend visite pour changer mes bandages et pour s'occuper de moi. Finalement, cette histoire me fit sur le coup plus de peur que de mal, même si oui, plusieurs années plus tard, les regards remplis de critiques ne changent pas et que moi, j'en souffre encore.
Il faut vous dire que je ne voulais surtout pas être prof. Issue d'une famille d'ingénieurs agronomes depuis 4 générations, les études d'agronomie étaient pour moi une évidence. D'ailleurs, mes 2 frères ont fait des études dans le secteur agricole. Alors que j'étais en école d'ingénieurs agronomes à Toulouse, s'est présentée la possibilité d'être payée pour finir mes études. Mais pour cela, il fallait être prof pendant 10 ans. Pour moi, il n'en était pas question. Je ne voulais surtout pas être prof. J'ai donc poursuivi mes études et commencé à travailler sur un emploi de courte durée à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Je suivais des essais sur différents lieux, dont la ferme agricole du lycée de Honde. à côté de Toulouse. Très vite, j'ai fait des cours, d'abord à des femmes d'agriculteurs en formation pour adultes, puis en classe de 4e technologique. Cette première expérience d'enseignement à des jeunes a été catastrophique. Ils trouvaient cool d'avoir une jeune enseignante. Je les avais autorisés à m'appeler par mon prénom et à me tutoyer. En conséquence, ils me considéraient davantage comme une copine que comme une prof et j'avais beaucoup de mal à éviter les débordements. Heureusement, cette année scolaire a été interrompue par un congé maternité. J'ai eu ma première fille. De retour en septembre de l'année suivante, nouveaux élèves en 4e, mais aussi une nouvelle enseignante de français, pleine d'enthousiasme et de projets. Toute l'année, les jeunes ont travaillé sur un projet de voyage dans le sud de la France, ils ont planté des légumes, ils les ont vendus, ils ont choisi les visites pour leur voyage. Ça a été une année enrichissante et valorisante quand des parents de jeunes en difficulté scolaire vous disent que leurs enfants retournent à l'école avec plaisir. Et voilà, je voulais être prof. Un beau métier pour une femme, comme dit ma mère. J'ai donc passé un concours pour être professeur certifié de l'enseignement agricole et je suis arrivée au lycée agricole de Auch après un an de formation. Changement de public. Cette fois-ci, j'enseigne à des grands de BTS, 18 à 20 ans, voire plus. Mais après 30 ans d'enseignement, ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est de retrouver régulièrement d'anciens étudiants lors de visites, de réunions techniques ou de les solliciter pour des visites auprès des plus jeunes promotions. Ils sont généralement contents de nous revoir et fiers de montrer ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait. C'est agréable de voir qu'ils ont gardé de bons souvenirs de leur passage parmi nous. Et parmi les souvenirs qu'ils évoquent le plus souvent, reviennent les voyages d'études. C'est vrai que dès que mes trois filles ont été plus grandes, je me suis à nouveau investie et enthousiasmée pour des projets de voyage à l'étranger. L'Italie, la République tchèque, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. À chaque fois, il s'agit de trouver les financements, d'organiser les visites techniques et culturelles. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels étrangers, généralement passionnés, et de parler anglais, même si je ne maîtrise pas très bien cette langue. Mais surtout, ces voyages sont l'occasion d'expériences riches avec les étudiants. Ce sont des projets sur lesquels on travaille pendant 2 ans et qui, en principe, les motivent. Et puis, il y a les étudiants qui vont pour la première fois à l'étranger. On partage un peu de leur émerveillement, ceux qui découvrent des pays sur lesquels ils avaient des a priori négatifs. J'aime pas qu'ils viennent chez moi, alors je vais pas chez eux, et qui reviennent pourtant enchantés. Ceux qui rentrent pour la première fois dans un musée et s'étonnent que ce ne soit pas poussiéreux. J'ai d'ailleurs un souvenir marquant de la visite d'un musée d'art moderne à Munich. Alors que j'avais choisi la visite pour une exposition en Kandinsky qui m'intéressait, la plupart des étudiants sont restés bloqués dans le hall d'accueil sur le moulage géant d'un cornichon. Heureusement, il y en a 3 ou 4 qui ont bien aimé, et il y en a même un qui était très content d'avoir vu en vrai un tableau de la salle d'attente de son dentiste. On a de petites victoires. Ces projets m'ont en tout cas permis de garder intact un enthousiasme pour l'enseignement jusqu'à mon départ. Je suis contente d'être un prof, c'est vraiment un beau métier, et à mon avis, pas que pour une femme.
Morgane, bagarre au camping. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû lui parler. C'était l'été de mes 8 ans. J'étais partie en vacances avec ma cousine, qui avait 3 ans, et mes grands-parents dans leur camping-car. On est allé dans les Landes, on s'est installé sur une aire, et après, on est allé jouer avec ma cousine, à l'aire de jeu où il y avait déjà beaucoup de personnes. Il y avait un bac à sable à côté d'une grande haie qui cachait la moitié de l'aire, à peu près. Aucun adulte ne pouvait nous voir derrière. Un garçon, qui avait une bonne tête de plus que moi et sûrement aussi un an de plus, m'a abordé. Il était sympa, drôle et il avait ce côté grand frère protecteur qui me plaisait. On était tout le temps ensemble, on jouait. On était des inséparables, comme on dit. Le dernier jour des vacances, j'ai dû rentrer chez moi. Donc quand je lui ai annoncé, il s'est refermé petit à petit. Et dans la journée, il a perdu la raison. Ma cousine jouait dans le bac à sable et lui, il a commencé à la frapper avec son seau. Donc moi, j'ai voulu la défendre. Donc je lui ai sauté dessus,
Je le frappais, je le giflais, je criais. Mais comme il avait plus de force que moi, il a réussi à me repousser et s'est enfui derrière la grande haie. Je l'ai poursuivi pour savoir ce qui s'était passé dans sa tête. Personne ne pouvait nous voir. Il s'est retourné, m'a attrapé par les épaules et m'a plaqué contre un arbre. J'ai eu peur. Personne ne pouvait nous voir. J'ai vu dans ses yeux l'envie de faire souffrir et une souffrance qu'il dissimulait en lui. J'ai aussi vu la force qu'il pourrait utiliser pour me frapper jusqu'à m'étaler par terre. On aurait dit le jeu auquel on jouait tout le temps, le chat et la souris, où c'était le prédateur et moi la proie. Alors, j'ai fait un geste que j'ai regretté aussitôt. Je lui ai donné un coup de genou dans le ventre. Il s'est étalé par terre, il suffoquait, il crachait sa salive. Je ne me suis pas retournée, je me suis enfuie directement. Je suis rentrée chez moi, mais j'en ai pas parlé à mes grands-parents, à ma mère ou à mon père. Et j'aurais peut-être dû. Parce que jusqu'au collège, après, j'ai eu beaucoup de mal à me faire de nouveaux amis, des personnes en qui je pouvais réellement avoir confiance. Mais je m'en suis bien sortie. Maintenant, tout va bien.
Charlène est la fille qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je vais vous raconter mes périples en primaire et en quatrième. J'étais le souffre-douleur de la classe et de certaines filles de la classe. Je me faisais étrangler, frapper. En quatrième, je l'ai dit à mes parents et on est allé porter plainte. Mais en CE2 et CM2, je n'ai rien dit à personne et chaque jour j'y allais avec la boule au ventre, mais j'y allais quand même sans dire un mot. Et jusqu'au jour où en CM2 une fille m'a prise par la main au moment où je me faisais étrangler. Elle m'a prise par la main et m'a emmenée plus loin. Des garçons de la classe sont venus s'en mêler et m'ont aidée avec ces filles. Après, il y a eu le décès de mon arrière-grand-mère qui m'a aussitôt replongée. Et donc, après, j'ai commencé l'équitation. Et donc, le contact avec les chevaux et les animaux m'ont ouvert aux autres. Et quand je suis rentrée en sixième au collège, je me suis ouverte aux autres et allée vers les autres. Et je me suis fait des nouveaux amis. Jusqu'en quatrième où je me suis refaite étrangler. Et là, j'ai pris la décision d'en parler à mes parents et d'aller porter plainte. Et j'ai arrêté l'équitation pour aller à l'école des pompiers. Et là, en étant à la vacance, j'ai pu recommencer l'équitation. Et c'est une façon pour moi de me libérer des choses que je n'arrive pas à dire. Et quand je prépare le cheval, je lui parle ou je lui chante des chansons, comme par exemple une série que je regarde en ce moment qui s'appelle Heartland. Et après... Après, parler aux chevaux m'aide énormément. Et en ce moment, j'ai beaucoup de soucis dans ma vie. Et je fais la référence à l'équitation, car si on croit tomber, on s'accroche. Voilà, c'est pareil. On s'accroche car on ne franchit pas un obstacle tout seul. Et j'aimerais aussi dire que ma famille, ils seront toujours dans mon cœur. Et j'aimerais aussi remercier mes vrais amis qui sont encore là aujourd'hui, même s'il m'en reste très peu. Et dire aussi que l'équitation, c'est pas une passion, c'est une partie de ma vie.
Marion, un amoureux dangereux. C'était l'année dernière, durant mon année de troisième, j'étais dans un lycée professionnel. J'étais stressée d'y aller parce que j'avais peur de me retrouver avec des personnes que je ne connaissais pas. Le jour de la rentrée, je me suis retrouvée dans la classe d'un ami à moi. Au début, j'étais super contente d'être avec lui parce que je me suis dit que je serais avec quelqu'un que je connais. 2 mois après, il m'annonçait qu'il était tombé amoureux de moi dès le début. Je me sentais vraiment mal, je lui dis que moi j'étais déjà tombée amoureuse d'un autre garçon. Il m'a mal regardée, il m'a dit « D'accord, tu le regretteras ». J'ai pensé qu'il avait dit ça juste sur le coup, mais que ça lui passerait. Quelque temps après, un matin, j'étais dans le couloir du lycée et j'entends « Tu vas où comme ça, grosse pute ?» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était lui. J'ai continué à marcher. Au fond de moi, j'étais mal. Le lendemain, je repasse dans les couloirs avec une amie. Je passe juste devant lui. Puis tout d'un coup, il m'attrape. Il commence à me soulever du sol et me balancer par terre. Les jours passent et c'était de pire en pire. Chaque jour, j'avais droit à des insultes, des coups au bras, à la tête, mais personne ne voyait rien. Chaque jour, il me tardait le soir pour rentrer chez moi. Chaque matin, j'avais une boule au ventre pour revenir au lycée. Un matin, j'ai vomi, ma mère m'a entendue et est venue me voir, m'a demandé si ça allait et m'a dit « si ça ne va pas, tu peux rester à la maison ». Je l'ai regardée et j'ai pleuré en lui disant « Maman, j'ai peur d'un garçon du lycée ». J'ai mis 4 mois avant que j'arrive à lui en parler. Ma mère m'a demandé ce qui se passait, je lui ai juste parlé des insultes sans vouloir lui en dire plus pour ne pas l'inquiéter. Elle a voulu prendre rendez-vous avec le lycée, j'y suis allée. Une fois que j'y étais, j'ai commencé à leur raconter l'histoire depuis le début. Ils m'ont répondu que c'était normal parce qu'il était amoureux. Je n'ai rien dit et je suis partie. Depuis ce jour, je me suis sentie seule au lycée et j'ai compris que je devais continuer à vivre avec ça parce que je ne voulais pas que ma mère s'inquiète et que je rate mon année de lycée. Quelque temps après, ma mère a vu un énorme bleu sur mon bras droit. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai enfin décidé de tout lui expliquer. Du coup, ma mère a pris la décision de porter plainte contre ce garçon qui m'a frappée pendant plusieurs mois, alors que personne au lycée, ni mes camarades, ni le personnel a cherché à me comprendre et à m'aider. Quand le lycée a été informé par la gendarmerie, tout a changé et depuis ce jour, j'ai compris que cacher les choses n'était pas la bonne solution.
Mallory, soirée d'ivresse. C'était le soir d'Halloween chez moi. J'avais invité des amis à moi, à Hoche et de la classe qui était Samantha, Canel et Jennifer, mais elle qui n'est pas dans ma classe, et d'autres amis du lycée Pardaillan. Mes amis devaient se rendre à 19h chez moi pour commencer la soirée. Mais Jennifer et deux autres amis, Elena et Liz, sont venus un peu plus tôt pour m'aider à décorer la maison et l'extérieur. À 19h30, tout le monde était là. On a commencé la soirée à boire, à rigoler, à manger et à jouer à des jeux d'alcool. Mais Jennifer et moi, on ne voulait pas boire pour être bourrés. Mais dans la soirée, Samantha a voulu que je l'accompagne à boire un verre, alors j'ai dit oui. Mais au bout d'un moment, j'avais posé mon verre vide au salon sur la table pour arrêter de boire. Jennifer, en discrétion, elle m'a rajouté de l'alcool dans mon verre et me l'a donné. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas vu qu'elle m'avait fait ça toute la soirée avec discrétion. J'ai couru dehors, je suis tombée car j'étais bourrée, mais à ce moment-là, j'ai rigolé et je me suis sentie ridicule. Mais j'étais consciente de ce que je faisais. Je rigolais pour un rien. Au bout d'un moment, Jennifer et moi, on cherchait Enzo et Rudy, qui étaient deux amis à nous. Ils étaient cachés dehors, mais moi, à ce moment-là, j'avais peur car c'était dans le noir et pas éclairé. Le lendemain, on a su que Enzo et Rudy ont cassé le pot de fleurs de la voisine sans faire exprès, car ils étaient dans le noir dehors. C'est Jennifer qui l'a remarqué en faisant le tour de la maison pour voir qu'il n'y ait plus de bordel de la soirée. Et quand Jennifer a remarqué le pot de fleurs, c'était en faisant le tour de la maison. Elle a refait le tour de la maison en repassant par les pots de fleurs et il n'y avait plus le pot de fleurs cassé. À ce moment-là, elle a été étonnée et elle a rigolé toute seule. Et quand le lendemain, elle me l'a raconté, j'ai rigolé. Mais aussi, quand elle m'a racheté de l'alcool, je l'ai su aussi le lendemain. J'étais contente de cette soirée car tout le monde a pu venir et on s'est bien amusé. J'étais rassurée car il y avait des amis à moi qui étaient bourrés et aussi, c'était pas moi la plus ridicule. Au final, quand j'ai appris que Jennifer mettait de l'alcool dans mon verre, dès que j'avais le dos tourné, j'ai rigolé jaune car j'aurais pu être malade.
Leïla, l'historien paraît toujours parler des autres. Au vrai, dans ses travaux ou son enseignement, il ne cesse de buter sur lui-même, d'interroger son fort intérieur, de se glisser dans les tréfonds de lui-même. Leïla, si tu le veux bien, cherche-moi plutôt dans mes écrits. Les propos qui suivent sont en effet, par bien des aspects, bourrés d'artifices. Au reste, je n'ai pas toujours été historien. J'ai d'abord été postier pendant 3 ans dans un centre de tri à Rennes. Puis j'ai eu 20 ans, lorsque le monde bipolaire que j'avais précédemment étudié en histoire et en géographie connut un formidable ébranlement, la chute du mur de Berlin. L'histoire se conjuguait soudain au présent. Des imprudents annonçaient cette année-là la fin de l'histoire, la propagation mondiale de la démocratie libérale et le règne durable de la paix. La fin de l'histoire. Merde alors, répondit le père Ubu Baudru. J'avais quant à moi la conviction profonde que l'histoire resterait définitivement tragique. Au cours des années qui suivirent, j'ai lu et écrit abondamment. J'ai alors dévoré toute une génération d'historiens, aujourd'hui disparus. Pierre Barral, François Lebrun, Maurice Agulon, Raoul Girardet ou Michel Lagré. J'ai lu et relu à l'envi le vieux Jacques Bainville, historien d'Action française. J'allais pourtant consacrer mes travaux à la République, dont nous n'avons pas, j'en suis persuadé, découvert tous les trésors. Je suis devenu professeur plutôt tardivement. J'avais déjà purgé, entre les 4 murs de bibliothèques, de dépôts d'archives ou de musées, ma première peine incompressible de 30 ans, lorsque j'entrais dans l'enseignement agricole. J'envisageais d'ailleurs ce métier, ne le répète pas, Leïla, s'il te plaît, comme une activité principalement alimentaire. Ainsi serais-je professeur le jour, gros lecteur et fébrile écrivain la nuit. La nuit. C'est elle qui vint brusquement bousculer une trajectoire déjà, ici ou là, composée d'allées et de retours. Un été, à la brune, ma petite fille, que je m'appliquais à endormir, me demanda soudainement « Papa, comment les abeilles fabriquent-elles du miel ?» J'ai d'abord bredouillé, puis j'ai débité, de façon péremptoire, un chapelet de bêtises. Je réalisais secrètement que je ne savais rien de cet insecte-là. Enfant, je m'étais d'ailleurs ennuyé devant Maya l'abeille. Par surcroît, l'attrait que suscite l'apiculture dans le parti de l'ordre, c'est-à-dire parmi les militaires, les curés ou les tyrans, me déplaisait. Ces hommes-là n'appartiennent pas à mon petit panthéon. La ruche divisible n'a-t-elle pas été inventée par des hommes d'église tels que Charles d'Adam ou Lorenzo Langstroth ? Je tourne aussi les talons lorsque j'entends vanter la société des abeilles. Celles-ci ne thésaurisent-elles pas dans leur coffre-fort de cire, à l'instar d'un vulgaire footballeur marseillais ou d'une star fugitive de la variété ? Ne rejettent-elles pas, usant de la plus grande violence, celui qui vient de loin ? N'entretiennent-elles pas les mâles de la ruche dans un rôle qui, par ricochet, ridiculise tous les hommes ? Et cervelé, nomade et jouisseur, le mâle de la ruche, que nous appelons le faux bourdon, ne saurait, dit-on, que copuler et bouffer. Il n'empêche, Leïla, j'ai inscrit ma fille au rucher École d'Auch, puis nous avons acheté une ruche peuplée, puis 2, puis bien d'autres. Un beau cadeau m'a été accordé l'an passé dans mon lycée, quelques heures que je peux consacrer à l'apiculture. Je te vois d'ici sourire, Leïla. Tu as raison, hein. À l'instar du faux bourdon, je ne pense plus qu'à ça. Aller de ruche en ruche.
Océane, ma jeunesse de lycéenne. Chère Océane, tu as aujourd'hui 40 ans. Tu as enfin le droit d'ouvrir la lettre que je t'ai écrite à 17 ans quand j'étais à Beaulieu au lycée en terminale. Tu te souviens de ce temps où tu te plaignais tout le temps ? C'était dur les mathématiques avec toutes ces formules à retenir et tous ces devoirs les soirs. Tu adorais te raconter des histoires, puis tu créais des mémotechniques pour mieux retenir tes leçons. D'ailleurs, tu te rappelles de cette blague en mathématiques ? F de x et f prime de x sont sur un bateau. F de x tombe à l'eau. Que fait f prime de x ? Eh bien, elle dérive. Ouais, je dois avouer que cette blague n'était pas très drôle, mais elle servait pour les contrôles. Cette matière est difficile, surtout quand on se demande parfois à quoi ça peut nous être utile. Par ailleurs, est-ce mieux désormais ? Ton travail te plaît ? Si je t'écris, c'est pour te rappeler que ça n'a pas toujours été facile d'arriver à ce que tu es aujourd'hui. N'oublie jamais les soirs où tu veillais. Travailler, voilà ce que l'on te répétait. Affalé au fond de ton lit dans l'espoir de retenir l'économie et toutes ces matières difficiles. J'espère que tu vis bien ta vie et que tu as pu suivre ton rêve d'être soigneur animalier. Quoi qu'il en soit, tu dois bien être occupé. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas en te forçant que tu vas apprendre. Amuse-toi et tu verras que tout se transformera autour de toi. Cordialement, Océane, élève de Beaulieu.
Je vais appeler une personne un peu improvisée, c'est Azad, qui va venir nous raconter une histoire. Il vient de Lozère.
Avant tout, j'aimerais remercier Laïla de m'autoriser ces quelques minutes pour parler de mon histoire. Et le titre de mon histoire, c'est « Le roi des océans ». Alors, je suis parti à Dakar, au Sénégal, cet été pour un stage de pêche au gros, donc pêcher le poisson de taille assez importante. Et les quelques jours avant mon départ, je suis parti en pêche en mer avec mon maître de stage et ça a été une des plus belles journées de ma vie. On a pu pêcher des poissons magnifiques, des coryphènes, des thons albacores magnifiques, des couleurs vert, bleu, de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et vers la fin de la journée, on se situait au large de Dakar, vers une centaine de kilomètres. Et là, on aperçoit à 100 mètres, 200 mètres, deux baleines faire des sauts, des chandelles, faire tout ce que vous voulez. Imaginez, fermez vos yeux, faire des jets d'eau, c'était magnifique. Donc on a décidé de s'approcher de ces baleines et en accélérant, un marlin a surgi et a tapé le leurre que j'avais. Je me suis dit, ce leurre-là, ça doit être le leurre où je dois faire mon marlin. Et là, le combat commence. Je prends la canne. 15, 5, 10, 15, 20 minutes, ça enchaîne. J'étais épuisé, mort, fatigué. Et j'avais mon collègue à côté, il me dit, t'inquiète, ça va aller, t'as un second souffle. Et arrivé au bout de la 30e minute, le marlin arrive au bateau. Et là, je m'assois sur le bord du bateau, je l'observe. Et là, je me dis, mais j'ai attrapé ça ? C'est un truc de dingue. C'est un poisson qui était magnifique, bleu foncé sur le dos, tigré, bleu électrique. On avait l'impression que ce bleu bougeait en lui. C'était impressionnant. Du coup, on a dû le récupérer sur le bateau pour le manger au village. Et ça a été une expérience assez intéressante pour moi par rapport à ça. Mais un peu plus tard, quand je suis rentré en France, j'ai un ami qui m'a dit « Si ça avait été le dernier marlin des océans, qu'aurais-tu fait ?» Et là, je lui ai répondu « Je l'aurais décroché, je me serais mis à l'eau avec lui et je serais parti en apnée avec lui. Je l'aurais embrassé et je l'aurais laissé partir au loin. Et je l'aurais gravé à jamais dans ma mémoire. »
Abloc Radio Live a réuni les histoires, le soutien et les voix de Azad, Camille, Canel, Céline, Cynthia, Élise, Ethan, Frédéric Rouziès, Hervé Baudru, Ismaël, Jean-Philippe Prévost, Léa, Mallory, Marine, Marion, Morgane, Natacha Robert, Océane, Sylvie Lomonier, Titouan, Walter, Victoria et Charlène.
Ce moment, en direct, inédit pour notre communauté éducative, n'aurait pas pu exister sans le soutien et le travail de nombreuses personnes, dont les directeurs du LECTA d'Auch Beaulieu-Lavacan, messieurs Bizel et Bissuel, et François Tabel, responsable du site de Lavacan, Philippe Massas, musicien hors pair qui a accompagné nos prises de parole, et Stéphane, notre réalisateur sonore. Enfin, un grand merci à Camille Fossart et Christelle Desmarais pour le travail réalisé en classe avec les élèves de seconde B, ainsi qu'Anne-Lise Liziki et Marie-Pierre Zoria pour le travail avec les élèves de l'Avacan.
Nous remercions tout particulièrement et très chaleureusement Leïla Djitli pour son accompagnement exigeant et bienveillant. Nous avons bénéficié pendant 4 semaines de sa présence à nos côtés. Cette résidence a été possible grâce à l'appui de la région et de la DRAC Occitanie.
Et enfin, merci à tous les spectateurs et auditeurs d'Abloc Radio Live. Nous sommes heureux d'avoir pu souffler à l'oreille combien nous aimons les belles histoires, celles qui finissent bien, celles qui se disent bien.